c'est plus rare dans les villes, bien que, et c'est ça qui est troublant, c'est que ce qui était fait, pratiqué par des hommes armés et par des milices, actuellement se banalise au point que dans la société civile, les gens qui accueillent les femmes qui ont été violentées reçoivent de plus en plus des personnes qui ont simplement été prises dans la cité, dans la ville, comme ça, et par des civils, pas par des militaires. Donc une espèce de banalisation actuellement qui est très inquiétante. Mais sinon, il faut reconnaître que le gros des viols est pratiqué plutôt dans les villages et dans les zones peu accessibles, là où se trouvent les différentes milices qui circulent. Alors, faut dire qu'il y a différentes situations dans lesquelles les viols ont lieu. Il y a des viols qui sont faits lorsque les femmes vont au champ, vont marcher, vont se laver à la rivière, etc. Et là, elles peuvent être surprises. Dans certains cas, elles sont carrément enlevées pour devenir esclaves sexuelles dans les groupes, les milices qui sont installées dans des camps dans les forêts. Alors, il y a d'autres situations où alors il y a une véritable attaque organisée par un groupe armé qui neutralise complètement un village. Et à ce moment-là, c'est le viol en réunion de toutes les femmes du village, en obligeant le mari et les enfants à assister au viol. Puis après ça, on emmène les filles dans la forêt et parfois on tue également le mari et puis on brûle les maisons et on prend tous les biens qui peuvent être utilisés. Et là, on a l'impression que c'est une façon de libérer le terrain en détruisant pratiquement les réseaux sociaux, la famille, la culture même. Le fait, par exemple, d'obliger le mari et les enfants à assister à cela, c'est vraiment une volonté de détruire les liens entre les personnes.
Donc par le viol, on détruit la famille et du coup le tissu social et le contrôle du territoire.
C'est ça. Alors d'abord, les gens fuient parce que vous pensez bien qu'après une chose pareille, le village, il n'y a plus personne dans le village. Ensuite, il y a la destruction des personnes elles-mêmes dans le couple, dans la famille, etc. Parce qu'après ça, la femme est quand même la gardienne des traditions. C'est quand même elle qui fait l'union de la famille. C'est elle aussi qui est la maîtresse de la vie. Donc lorsqu'on lui fait subir cela devant toute sa famille, tout son rôle s'écroule dans le fond. Souvent, les maris les refusent. Après, ils refusent de reconnaître l'enfant et de lui donner un état civil. Donc on est là dans une anomie complète qui s'installe et une dérégulation totale de la société et du territoire aussi, parce que les gens en fuyant libèrent ce territoire qui petit à petit alors est occupé par des groupes qui à ce moment-là font de l'orpaillage, cherchent les minerais et les richesses locales, etc.
Pourquoi est-ce qu'on n'empêche pas ces viols? C'est quoi les freins?
Il y a bien sûr parmi les causes d'abord tout le problème du manque de respect des femmes. Mais alors à côté de ça, effectivement, il y a une impunité généralisée par rapport à ces questions, ce qui montre d'abord qu'on banalise le fait qu'on a porté atteinte à une femme, et ensuite qu'il y a des réseaux qui sont suffisamment puissants pour systématiquement neutraliser les magistrats ou bien payer des sommes pour que le violeur sorte de prison après. C'est ce que disait le responsable de la commission justice et paix à Bukavu quand on posait la question « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de procès de viol ?» Mais comme dans un très grand nombre de cas, le violeur de toute façon est rapidement remis en liberté, le grand danger, c'est qu'alors après, lui, il vient se venger sur la personne qu'il a dénoncée. Donc en fait, on ne dit plus rien. Et donc ça, c'est presque une bénédiction pour les gens qui veulent faire simplement ce qu'ils veulent. Et ça aussi dans la société civile, que ce soit des enseignants avec leurs élèves ou des professeurs d'université avec leurs étudiantes. Enfin, c'est assez dramatique, où dans le fond, on emploie une expression, les MST, vous savez que ça veut dire normalement maladie sexuellement transmissible, mais l'humour congolais dit qu'à l'université, ça veut dire la moyenne sexuellement transmissible. Avec ça, on est sûr de passer, quoi.
Mais alors, vous l'avez dit, la plupart des viols sont quand même dans les zones rurales. Que deviennent les victimes de ces viols? Est-ce qu'elles vont en ville? Est-ce qu'elles sont accueillies? Qu'est-ce qui se passe?
Alors bon, celles qui se sont déclarées, on les accueille, bien entendu. Il y a des hôpitaux qui ont même des départements spécialisés pour ça, spécialement pour de la chirurgie, parce qu'après cela, parfois, il y a des questions de chirurgie. Donc, il y a des centres d'écoute, un accueil psychologique. Le problème aussi, c'est le problème économique, parce qu'en général, ces gens n'ont absolument plus rien du tout. Beaucoup de femmes dont le mari a été tué se retrouvent veuves avec les enfants, ou bien elles ont été chassées avec leurs enfants parce que le mari n'en veut plus, il est humilié, ou bien il a peur d'attraper des maladies sexuelles, etc. Donc beaucoup de femmes sont totalement abandonnées avec des enfants et viennent donc errer dans les villes. Alors il y a un accueil, il y a une solidarité extraordinaire de la part des gens. Quand je découvre que dans une maison, il y a 20 personnes dont la moitié ne se connaissait pas et a été récupérée, etc. Mais en même temps, ça dépasse les moyens parce que le pays est très, très pauvre. Les gens vivent avec moins d'un euro par jour. Donc, cette solidarité est toujours mise en question par les possibilités réelles. Donc, il y a une immense misère à côté de ça. Il y a la misère psychologique, morale, spirituelle, économique et sociale. Donc, on peut dire que toute la société est traumatisée.
Et si j'ai bien compris, vous aussi, bien sûr, ça ne vous a pas laissé indifférent. Vous avez très récemment publié une lettre, moi, homme d'église, à ces femmes. C'était pour leur dire quoi?
Je veux dire que moi, ce qui m'avait particulièrement touché quand je suis arrivé il y a près de 3 ans maintenant à Bukavu, c'est tous ces récits que j'entendais et l'impression que, d'un côté, on faisait de l'aide sur le plan médical et psychologique, on donnait aussi une certaine aide économique quand c'était possible, mais il y avait tout le problème de la question du sens derrière tout ça. Les gens, spontanément, vont dire « il faut accepter la volonté de Dieu ». Alors évidemment, on leur dit « non, écoutez, ça, c'est pas la volonté de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour ». Donc là, vous êtes tombé dans un piège, ça, c'est l'homme, c'est le mal dans l'homme, c'est pas ça que Dieu veut. Et donc, il me paraissait très important de pouvoir dire à ces femmes, écoutez, ça, c'est pas ça que Dieu veut pour vous. Et le fait que des hommes, au lieu de vous protéger, utilisent leur force physique pour vous réduire à pire qu'un objet, pire que ce que ferait un animal, parce que les animaux ne font pas ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le projet de Dieu. Et moi, en tant qu'homme, je suis profondément, bouleversé de voir ce que des hommes comme moi peuvent faire. Et en plus, en tant que prêtre, je suis bouleversé de voir que vous risquez de vous couper de Dieu qui pourrait être votre consolation, parce que quelque part, vous vous sentez abandonné ou vous pensez que Dieu permet ou même veut que certains subissent plus que d'autres. Alors là, il me semblait très important de leur dire non, vous êtes aimés, vous n'êtes pas coupables. Et surtout, croyez que notre Dieu, qui lui-même est passé par une mort horrible, eh bien, n'est pas indifférent à ce que vous vivez.
Et du coup, ça vous a donné envie d'agir? Est-ce que ces femmes attendent quelque chose de vous?
Je crois qu'elles attendent beaucoup plus de l'Église qu'on le pense. Même en Europe, on voit bien que parler de viol, par exemple, les gens sont mal à l'aise. Mais dans cette culture-là, parler de sexualité en public est quelque chose de tabou. Donc déjà, dans la communauté, habituellement, on ne parle pas de cela. Dans l'Église, on n'en parle pratiquement pas non plus. Ça n'empêche que vous vous retrouvez avec des communautés qui ont des gens qui ont été victimes de viol, avec des enfants du viol, avec des enfants soldats, avec des maris complètement désespérés, ne sachant pas que faire. Et alors là, il y a des bureaux d'écoute où on peut venir parler, mais la communauté elle-même, en tant que groupe, ne sait pas quelle position prendre, ne sait pas comment l'aborder. Et devant ce vide d'une parole claire de la part de l'Église vis-à-vis de ses victimes, moi j'ai pensé qu'il fallait qu'on prenne la parole au nom de l'Église et du Seigneur en fait. Je me suis rendu compte que le même problème se passait dans les églises protestantes et qu'il y a un malaise du clergé par rapport à cela, peut-être parce que lui-même, dans une attitude assez patriarcale, ne prend pas suffisamment au sérieux le drame de ces femmes, à mon avis.